Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Jean-Noël avec vous et pendant une heure avec Carole. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Noël.
Tu reviens donc sur l'antenne. Nous sommes déjà le 1er juin, ça passe très vite. Et tu vas nous parler de pas mal de choses intéressantes. Tu vas nous faire voyager.
Toujours, oui, tout à fait.
Tu vas nous faire voyager comme Anne Fleur, qu'on va retrouver également dans sa rubrique Les Inventions du Monde. On voyage un petit peu grâce à vous et c'est très bien. C'est l'émission que nous vous proposons aujourd'hui avec un beau programme dans cette émission Biotine, l'émission de science et de technologie également, que vous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, en direct ou en différé grâce au podcast, bien évidemment. Aujourd'hui, 1er juin, l'ONU a décidé que le 1er juin, c'était la journée mondiale des parents. Ok, très bien. Et c'est également la journée mondiale du lait. Voilà, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui a décidé que le 1er juin serait la journée mondiale du lait. Pas mal de choses d'un point de vue science et technique. Ce 1er juin, en 1942, il y a la mise en service du barrage Grand Coulée dans l'État de Washington. Ok, très bien. Et ce qui est intéressant, c'est en 2003, toujours le 1er juin, nous sommes en Chine et c'est le début de la mise en eau du barrage des Trois Gorges. Il a créé une retenue de 600 km de longueur. C'est la plus grande centrale hydroélectrique du monde, le barrage des Trois Gorges en Chine. Et c'était donc la mise en eau le 1er juin 2003. Un petit peu plus récemment, en 2012, l'Union internationale de chimie pure et appliquée a décidé d'approuver le nom de deux éléments chimiques découverts récemment, le flérovium et le livermorium. Alors, nous allons donc, comme toutes les semaines à l'occasion de cette année internationale du tableau périodique des éléments, remplir la case 114 parce que le 1er juin 2012, il a été décidé donc de nommer le flévorium, ce radioélément non naturel qui a été produit par l'homme et a été synthétisé pour la première fois en décembre 1998. Certaines applications encore, pas mal d'études pour l'instant pour savoir à quoi on pourra l'utiliser, peut-être notamment au niveau de l'énergie, mais on n'en sait guère plus. Le flérovium, symbole chimique grand F petit L, et donc c'est la case 114. On l'a donc nommé en 2012 comme ça, mais avant, comme on ne savait pas trop comment le nommer, on l'avait nommé le ununquadium, c'est-à-dire le 114 pour donner le chiffre 114, le flévorium, pardon, je vais y arriver. En 2016, 1er juin, l'inauguration en Suisse du tunnel ferroviaire de base du Saint-Gothard, d'une longueur de 57 km, c'est donc le plus long tunnel du monde. Et il y a 2 ans, c'était l'annonce de la découverte du signal GW170104. C'est en fait l'observation d'ondes gravitationnelles. Il y a 2 ans, on les avait découvertes et Einstein les avait prédits il y a déjà un siècle. 1er juin de 1928, c'est la naissance du cosmonaute soviétique. Et là, je vais prendre ma respiration pour essayer de prononcer son nom sans bugger. Donc, je respire profondément. Et il s'appelle donc Georgi Timoïevitch Blavatsky.
Pas mal.
Pas mal. C'est un cosmonaute soviétique né le 1er juin 1928 qui va réaliser un unique vol comme commandant du vol Soyouz en 1971. Il séjourne 23 jours à bord de la station spatiale Salyut 1, qui était à l'époque le nouveau record de durée de vol. Et lors de son retour sur Terre, il y a une valve de la capsule qui s'ouvre accidentellement. La capsule se dépressurise brusquement. Ça va asphyxier les 3 membres de l'équipage et donc il meurt à son retour sur Terre le 30 juin 1971. 1er juin 1841, c'est la mort de Nicolas Appert, inventeur français, le premier à mettre au point une méthode de conservation des aliments en les soumettant à la chaleur dans des contenants hermétiques et stériles, des bouteilles en verre, des boîtes métalliques en fer blanc. Nous parlons bien sûr des boîtes de conserve. Il donc crée en France la première usine de conserve au monde et il va donner son nom à cette technologie, Nicolas Appert. On va parler d'apertisation. C'est bien ce procédé de conservation qui consiste à stériliser par la chaleur des denrées périssables dans des contenants hermétiques. L'apertisation, c'est donc la mise en conserve. Et c'est un Français, Nicolas Appert, qui est né à Chalon-sur-Marne en 1749 et qui est donc mort un 1er juin 1841 à Massy, en région parisienne. Nicolas Appert, c'était donc l'éphéméride de cette émission. Carole, tu nous emmènes de l'autre côté de l'Atlantique peut-être.
Tout à fait, mais même alors de l'autre côté de l'Atlantique dans un premier temps, puisqu'on va parler de New York, des États-Unis. Mais en fait, on va aller encore plus loin, puisqu'on va parler d'astéroïdes. Donc ça a eu lieu le mois dernier, début mai, une simulation d'un impact d'astéroïdes donc, sur la Terre, qui a donc fini par la destruction de New York.
Très bien, on n'en a pas du tout parlé dans les journaux, parce que New York existe encore.
Oui, alors, en fait, j'avoue que de mon côté, ce qui s'est passé, c'est je me suis réveillée un matin, et là, je regarde les news donc, sur mon téléphone, et je vois « Destruction de New York ». Alors, comme en plus, je comptais y aller, j'ai eu un moment de bug, même si ça me paraissait surréaliste, avant de comprendre que, bien sûr, il ne s'agissait que d'une simulation. Puisque donc les agences spatiales se sont livrées, entre le 29 avril dernier et le 3 mai, à un exercice simulant la chute d'un astéroïde sur Terre. Alors, est-ce que nous sommes prêts à affronter un tel événement? Eh bien, il semblerait que non. Donc, cet article a été relayé par Futura Science et nous rappelle qu'après avoir dévasté la Côte d'Azur en 2013, détruit Dhaka en 2015 et sauvé Tokyo en 2017, donc ça marche, il y a des fois quand même, on arrive à sauver des villes, et bien un grand exercice international de simulation d'impact d'astéroïdes s'est achevé donc le 3 mai dernier, malheureusement par un cataclysme, c'est-à-dire la destruction de la métropole de New York. Malgré 8 ans de préparation, eh bien les humains qui évidemment ont fait des tentatives pour dévier la trajectoire de cet astéroïde ont échoué. Alors cet exercice, c'est devenu en fait un rendez-vous régulier de la communauté internationale dite de défense planétaire. Et cette nouvelle édition, eh bien, elle a commencé en fait avec l'alerte initiale suivante, c'est-à-dire qu'on les maîtres du jeu finalement envoient un premier commentaire en disant qu'un astéroïde de 100 à 300 mètres de diamètre a été repéré et a, d'après de premiers calculs, une probabilité de 1% de frapper la Terre le 29 avril 2027. Tous les jours, quelques 200 astronomes du monde entier, ingénieurs et spécialistes des situations d'urgence, ont reçu de nouvelles informations. Ils ont formulé des propositions et attendu des décisions des maîtres du jeu. Ça a été conçu par un ingénieur aérospatial de la NASA. Au fil des mois, eh bien, la probabilité que l'astéroïde percute la Terre est passée à 10%, puis à 100%.
D'accord.
Alors, c'est très rassurant. Comment se fait-il ? Bien, c'est parce que justement, on a voulu une simulation où on est certain que l'astéroïde va toucher la Terre. Alors, la NASA, à ce moment-là, dans la simulation, dans le jeu, décide d'envoyer une sonde en 2021 pour observer cet astéroïde de près. Et en décembre 2021, les astronomes sont formels. L'astéroïde se dirige tout droit sur la région de Denver, dans le Colorado. Et donc, forcément, on devrait rayer de la carte cette région. Pour répondre à la menace, les grandes puissances spatiales, donc c'est surtout les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine, le Japon, eh bien ils décident de construire 6 vaisseaux qualifiés d'impacteurs chargés de frapper l'astéroïde afin de le dévier de sa trajectoire. Mais la fabrication prend du temps et il faut coordonner les orbites et les impacts, finalement ne sont prévus qu'en août 2024. Alors finalement, 3 impacteurs parviennent à atteindre la cible et à la briser. On pourrait penser que c'est une bonne nouvelle. Oui, car en effet, la menace d'un désastre régional est écartée. Mais malheureusement, un fragment de 80 mètres continue de foncer vers la Terre. Donc, l'astéroïde dans sa globalité est moins dangereux, mais il reste quand même un fragment pas si anodin que ça, qui donc vise toujours la Terre. Et les premières estimations, elles annoncent qu'il pourrait finir sa course sur la côte est des États-Unis ou dans l'océan Atlantique. Les Américains se préparent alors à une ultime mission avec une charge nucléaire cette fois-ci qui permettrait de le dévier. Alors pour information, c'est ce qui avait sauvé Tokyo justement lors du précédent exercice de défense planétaire. Mais à ce moment-là, des désaccords politiques en fait stoppent le projet 6 mois avant l'impact. Et les spécialistes révèlent qu'ils se dirigent sur la région de New York. 2 mois avant impact, c'est certain, le bolide va détruire la ville. Dans ce cas-là, il faut imaginer que l'astéroïde, il va entrer dans l'atmosphère à 69 000 km par heure et exploser à une quinzaine de kilomètres au-dessus de Central Park. C'est ce qu'annoncent en tout cas les scientifiques. L'énergie libérée, elle sera 1000 fois supérieure à celle d'Hiroshima. Le souffle détruira tout dans un rayon de 15 km. C'est ce qu'on appelle la zone de non-survie. J'aime beaucoup le nom. Et Manhattan, dans ce cas-là, deviendra un champ de ruines avec des vitres qui exploseront jusqu'à 45 km à la ronde. Donc on imagine les dégâts énormes et on dit qu'ils vont s'étendre jusqu'à 68 km. à la ronde. Bon, on imagine quand même que ce sera encore plus important. Indépendamment du périmètre touché, on imagine bien les répercussions bien sur sûr. La Terre dans sa bien globalité. Sûr. Alors, à ce moment-là, les problèmes soulevés sont multiples. Comment est-ce qu'on pourrait évacuer 10 millions de personnes en 2 mois? Donc là, il y a eu beaucoup de discussions en fait, entre toutes les personnes participant à cet exercice. Ne serait-ce qu'au niveau de questions de, j'ai envie de dire, un peu réglementaires, d'accueil, comment protéger les personnes, qui paiera, comment se comporter. Enfin voilà, énormément de questions posées. Et qui ont été longuement débattues par les participants. Des questions d'assurance, des questions juridiques. Hein. Les États-Unis, dans ce cas-là, ils ont réussi à sauver Denver, mais ils ont détruit New York. Donc, quelque part, il y aurait des obligations d'indemnisation. Enfin, il y a toute une machine en fait, qui se met en place. Et en fait, indépendamment du cataclysme, on peut imaginer qu'en termes de droit, d'assurance, c'est quelque chose quand même de très, très complexe. Et donc tous ces problèmes-là ont été débattus. Il y a également des astronomes qui en ont profité pour défendre le projet du télescope spatial NEOCAM, dont le slogan est « Finding asteroids before they find us ». Donc, bien sûr, trouver les astéroïdes avant qu'ils nous trouvent. C'est vrai que ça peut être mieux. À la fin de tout ça, hein, malgré les discussions détaillées sur l'apocalypse, eh bien, il y avait une certaine excitation lors de cette conférence qui réunissait des passionnés d'astéroïdes. Puisque donc, si un tel astéroïde menaçait de s'écraser un jour sur notre planète, eh bien, ça resterait un événement international et très intéressant pour les scientifiques, relève donc Brandi Johnson. Alors, le prochain exercice de ce type, il aura lieu en 2021 à Vienne. Cette fois-ci, c'est l'Europe hein, qui va quelque part être dans la ligne de mire. Donc, on attend de voir ce que ça donnera cette fois. Est-ce que Vienne sera sauvée? Est-ce qu'on réussira à avancer, à être plus performant cette fois-ci?
Mais où est Bruce Willis?
Et c'est que je crois qu'il est à la retraite maintenant.
Il ne fait pas partie du logiciel de simulation.
Il ne fait pas partie du groupe, enfin de la communauté internationale de défense planétaire. C'est vrai que c'est bizarre, ça pourrait être le président d'honneur, je crois, vu tous les films qu'il a fait où il a sauvé le monde.
Je ne sais pas, Carole, alors je n'ai pas de transition, hein, parce que là, c'était quand même assez apocalyptique. Je ne sais pas du tout si ton supérieur hiérarchique est en train d'écouter cette émission, mais il va peut-être être...
Je ne sais pas.
Eh bien, écoute, tu verras bien sa réaction quand tu vas retourner au travail, quand tu l'auras écouté cet article qui est notamment relayé par le site Futura Science et qui nous parle de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle qui va permettre, bien sûr, de créer des milliers d'emplois à travers le monde, mais qui pourrait aussi se transformer comme DRH du futur. C'est ce qu'a expliqué Ginny Rometty, la PDG d'IBM, en marge d'une conférence sur le travail et les ressources humaines à New York. Tiens, on y retourne. Eh bien, Ginny Rometty a expliqué que IBM avait développé une application pour anticiper les départs de ses collaborateurs et ainsi mieux les retenir. Avec 350 000 employés à travers le monde et une forte concurrence sur le marché des technologies, eh bien, IBM ne veut pas voir partir ses meilleurs éléments. Et l'intelligence artificielle sert à fidéliser ses employés. Le meilleur moment pour récupérer un employé, c'est avant son départ, c'est ce qu'elle a expliqué. C'est pour cette raison que sa firme a déposé un brevet sur un programme de calcul du départ prédictif. Ginny Rometty avance un taux de réussite de 95%. C'est quand même pas mal.
Oui, oui.
Alors forcément, elle ne veut pas dévoiler le secret de son application, mais de multiples et divers paramètres entrent en jeu. L'âge de l'employé, l'expérience, le salaire, l'ancienneté dans l'entreprise, la durée des trajets au quotidien pour se rendre au boulot et ainsi de suite. Et cet outil vient en complément des avis de la direction des ressources humaines, mais IBM reconnaît avoir considérablement limité ses effectifs dans ce secteur, car il est basé sur un modèle aujourd'hui dépassé. Les humains ont besoin de l'intelligence artificielle pour améliorer leur travail, c'est ce qu'affirme la dirigeante d'IBM, qui révèle que son département des ressources humaines a été réduit de 30% quand même. Ceux qui restent sont alors mieux payés et ils profitent de l'intelligence artificielle pour mieux identifier les compétences des collaborateurs et mieux les guider sur un plan de carrière, nous dit-on. Alors, cet assistant virtuel s'appelle My Career, donc c'est assez intéressant.
C'est intéressant, en effet.
Voilà, cet assistant virtuel d'IBM aide donc les employés à identifier les domaines dans lesquels ils ont besoin d'améliorer leurs compétences et en complément, eh bien, une technologie leur offre des possibilités d'emploi en fonction des données qui sont compilées et extraites par l'intelligence artificielle. artificielle. La PDG d'IBM affirme que plus d'un quart des employés qui ont reçu un nouvel emploi ou une promotion en 2018 ont été assistés justement par cet assistant virtuel MyCareer. À l'inverse, l'intelligence artificielle permet aussi de mieux cibler les compétences inutiles. Si vous possédez une compétence qui n'est pas nécessaire pour l'avenir, qui est abondante sur le marché, qui ne correspond pas à la stratégie visée par mon entreprise, vous ne pouvez pas rester à l'intérieur, hein, c'est ce qu'elle explique. Elle est assez brutale, mais bon, elle est PDG.
Oui.
Hein. Et elle ajoute que l'intelligence artificielle possède un immense avantage par rapport à l'humain, c'est l'objectivité. Les responsables sont subjectifs dans les évaluations, nous pouvons trancher et être plus précis à partir des données. C'est donc en vigueur chez IBM, des solutions qui sont mises à la disposition maintenant de n'importe quelle entreprise. Écoute, on verra bien cela par la suite. Mais je trouvais que c'était assez intéressant, un petit peu d'intelligence artificielle ou non dans ce domaine des ressources humaines peut être intéressant.
À suivre.
Comme on le dit dans ces cas-là, bien évidemment. Tu nous as emmenés à New York, je te parle d'émissions ou autres, mais on va partir encore loin, à mon avis, très loin. Anne Fleur avec les inventions du monde, toutes les semaines dans cette émission Biotine, nous parle, voilà, choisit une ville et nous parle des inventions qui ont été créées. Je ne sais pas où elle nous emmène, Anne-Fleur, mais à mon avis, on va voyager. Bonjour Anne-Fleur.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous. Alors j'espère que vous avez passé une très très belle semaine et que le week-end a bien commencé de votre côté. L'été est enfin là et je profite des rayons de soleil ainsi que du chant des oiseaux depuis Boston, le pied. Alors je ne vais pas déroger à la règle, aujourd'hui nous allons voyager et découvrir ensemble les inventions et innovations d'une région du monde. Et justement en parlant d'été et de tout qui s'y rattache, j'ai décidé aujourd'hui de filer tout droit dans l'hémisphère sud, direction Rio de Janeiro au Brésil. Est-ce que tu y es déjà allé Jean-Noël ?
Pas du tout.
Moi non, mais sincèrement j'en rêve. Bref, c'est parti, direction Brésil. Alors, pour commencer, parlons voiture. Jean-Noël, t'es plutôt automatique ou manuel ?
Automatique, évidemment.
Moi, personnellement, j'adore les manuels, mais il n'y a presque que des automatiques ici aux États-Unis. Bref, vous l'aurez compris, la première invention, c'est la transmission automatique. Et cela date de 1921, grâce à un certain Alfred Homer Munro d'Origina. Pardon pour l'accent, j'ai jamais fait de portugais. Il était ingénieur spécialisé dans la vapeur. Du coup, son invention utilisait de l'air comprimé et du coup, manquait un tout petit peu de tonus pour aller vite sur la route. Et du fait de tout ça, le succès commercial ne fut pas vraiment au rendez-vous. Alors 20 ans plus tard, cependant, José Brás Araripe et Fernando Lely Lemos, à nouveau, pardon pour l'accent, c'est certainement déjicté, ils ont développé la première transmission automatique en utilisant du liquide hydraulique. Ces derniers ont alors vendu leur prototype à une petite entreprise de l'époque qui s'appelle General Motors et qui les intégra à tous ses modèles d'Oldsmobile en 1940, ainsi que sur ses tanks sur tous les tanks, pardon, construit par General Motors, aussi connu comme GM. Ainsi que sur tous les tanks construits par General Motors. La deuxième invention dont je vais vous parler, alors les jeunes vont me dire « de quoi, c'est quoi ça ?» Disons que le baladeur, c'est l'ancêtre du Discman, qui lui-même est l'ancêtre du MP3, qui est ce qu'on trouve sur votre iPhone. Ça le fait ? Bon, le baladeur donc permettait d'écouter des cassettes audio tout en étant mobile. C'était assez révolutionnaire à l'époque. L'invention remonte en fait à 1972 et à Sao Paulo, où on la doit d'ailleurs à un certain Andreas Pavel. Il déposa son premier brevet en Italie en 1977, puis dans d'autres pays où les grands manufacturiers d'électronique sont localisés, tels que Grundig, Yamaha et Philips. 2 ans plus tard, Sony sortira un Walkman très très similaire au modèle de Pavel et c'est seulement 7 ans après moult déboires judiciaires, que Sony accepta de payer à Pavel des royalties limitées pour son invention. Et c'est d'ailleurs encore une histoire qui est en cours. La troisième invention dont je vais vous parler, ça peut peut-être un peu faire controverse, surtout à Compiègne. La montgolfière. Alors les frères montgolfiers sont souvent reconnus comme inventeurs de la montgolfière en 1782. Mais en fait, ils ont été précédés par les démonstrations d'un certain... Attention, Bartolomeo Luranco de Gusmão, qui fit voler de petits ballons d'air chaud en 1709, donc 70 ans plus tôt. Il s'agit tout de même de la plus ancienne technologie permettant de transporter des hommes dans les airs. Celle-ci consiste donc en un sac d'air chauffé par une source de chaleur embarquée dans la montgolfière. Une fois chauffé, l'air qui est à l'intérieur du sac devient plus léger que l'air hors du sac, et c'est donc ce qui fait décoller le ballon. Enfin, ce dont je vais vous parler, c'est le sérum anti-venimeux, un peu de santé. C'est au célèbre Vital Brasil, un immunologiste brésilien mondialement connu, que l'on doit les premiers sérums anti-venimeux. Un sérum anti-venimeux, c'est donc conçu pour combattre les effets de différents types de poisons, et ça doit être aussi vite que possible administré après le diagnostic. Ainsi, Vital Brasil mit au point plusieurs sérums, parmi lesquels le sérum anti-scorpion en 1908 ou encore anti-araignée venimeuse en 1925. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la balade au Brésil. Pour récapituler, on doit donc les sérums anti-venimeux au Brésil, ainsi que la transmission automatique des voitures ou encore les montgolfières, mais aussi le fameux baladeur. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.
Merci Anne Fleur. Et si, alors tu es à Boston, mais si tu étais souvent de passage dans le studio de Graphite, tu verrais une petite collection de baladeurs justement à l'entrée du studio. Donc on pensera à toi et quand on parlera de Rio maintenant, et puis je vais essayer de négocier au niveau de la direction de Graphite pour qu'on puisse te faire un petit cours de portugais pour que tu puisses bien prononcer. Mais c'est vrai que dans cette émission...
En plus, je pense qu'on aurait des personnes très bien pour pouvoir...
Je pense, oui, qui pourraient nous aider dans les prononciations du portugais. Merci Anne Fleur, on te retrouve bien sûr la semaine prochaine. Prochaine pour une nouvelle chronique des inventions du monde. On écoute The Band sur l'antenne de Graphite et après on retrouve Carole dans l'émission Biotine et un petit teasing, tu vas nous parler de...
Sortez vos carnets, vos stylos parce qu'on va travailler dur là et on va attaquer le sujet des tests génétiques utilisés désormais pour dépister tout ce qui est origine, ethnique, paternité, maladie. Un vaste sujet.
Un vaste sujet juste après The Buns sur l'antenne des Graphites. A tout de suite.
Graphite 94.9 FM.
Je suis désolé, Carole, tu étais obligée de te rasseoir. Tu étais en train de danser dans le studio.
Oui,
à l'écoute de One Man Chant du groupe The Burns sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique et technologique. Et vous avez bien raison. Les émissions de science sont tellement rares, notamment sur le média radio, qu'on ne peut que féliciter la direction de Graphite de nous permettre toutes les semaines pendant une heure de faire un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique et de pour nous tenir informés de l'actualité médicale, technologique. On a parlé de l'intelligence artificielle, on parle de l'espace, on va parler également des tests génétiques, c'est ce que tu nous as dit juste avant
c'est
d'écouter
ça,
The Burns. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin, ça a démarré hier et ça se poursuit aujourd'hui à la place de la mairie de Jolzy. Nous allons partir à l'été 1788. La moisson se termine à Jolzy. La récolte est désastreuse et au sein du village, inquiet, les tensions sont en train de monter. Eh bien, on vous propose de venir découvrir la fresque scénique monumentale qui s'appelle La Révolution à Jolzy, avec des acteurs, des chanteurs, des danseurs, des figurants, des cavaliers, cascadeurs. C'est également avec un magnifique feu d'artifice prévu ce soir à partir de 21h30, place de la mairie de Jolzy. Renseignements, et bien sûr, sur le site La Révolution à jolzy.fr et c'est en partenariat Graphite. C'est donc, c'était hier et c'est encore aujourd'hui 1er juin. Carole, c'est à toi.
Alors, donc justement, ces fameux tests génétiques, on en parle de plus en plus. Il y a eu pas mal d'émissions en fait ces derniers temps sur le sujet. Ça fait l'actu. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus, donc j'ai décrypté et synthétisé un dossier très très riche en informations, très fourni. Donc là, attention, c'est pour ça, asseyez-vous, prenez des notes, on est parti pour un moment.
C'est parti.
Non mais vaste sujet, donc on va essayer quand même d'en tirer les informations essentielles que sont donc ces tests génétiques. En effet, hein, à l'heure actuelle, cracher dans un tube et renvoyer le kit au laboratoire pour ensuite avoir la révélation, enfin des révélations sur notre ADN, eh bien c'est vanté par les entreprises qui vendent des tests génétiques visiblement très simples et fiables. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Alors tout d'abord, eh bien, on pourrait commencer notre histoire en 2010 avec donc Joe Pickrell, qui est un jeune généticien américain et qui accepte de rendre publiques les données d'analyse de son génome que la société 23andMe vient de produire. Il sait en effet que ces données ne révèlent rien de surprenant, aucun risque particulier de développer une maladie grave n'est alors signalé, et l'analyse génétique confirme qu'il a bien les yeux bleus et que ses ancêtres viennent du nord de l'Europe. Toutefois, dans les heures qui suivent cette publication, un autre généticien, nommé donc Dinekes Ponticos, analyse à nouveau ces données avec un logiciel qui vient de mettre au point pour reconstruire les origines des personnes. Et il conclut alors que si 80% des ancêtres de Joe Pickrell viennent bien du nord de l'Europe, 20% sont juifs askénazes. Extrêmement surpris de ce résultat, Joe Pickrell essaye donc de comprendre hein, ce qui a pu se passer et surtout pour lui, eh bien, le logiciel de Dinekes Ponticos se trompe. Mais suite à une discussion avec des membres de sa famille, eh bien, ils lui apprennent que c'est lui qui fait bien une erreur puisque un de ses arrière-grands-parents, arrivé aux États-Unis au début du XXe siècle, était bien juif askénaze. Cette histoire que Joe Pickrell a racontée en direct sur un site de discussion en ligne, eh bien, annonçait une longue série d'expériences vécues par des utilisateurs de tests génétiques en accès libre sur Internet, qu'il s'agisse de la recherche d'un père biologique ou de la découverte fortuite d'une fausse paternité ou encore d'un échange de bébé à la naissance. Donc, en quelques années, le marché de ce type de tests génétiques a explosé et s'est transformé en phénomène de société. Je pense que vous avez tous, chers auditeurs, vu à la télé des publicités pour ce type de tests ou ne serait-ce que maintenant sur Internet, en fait, à une époque sur Facebook, il y avait beaucoup d'annonces sur ce sujet-là. Et notamment, moi, je pense à Robert Pires qui, justement, pour une entreprise hein, commercialisant ces tests, avait, en tout cas dans les Français connus, a fait le test et s'était rendu compte qu'en fait il avait un pourcentage important dans ses origines d'Italien. Visiblement, ça l'avait surpris. Enfin, il y a eu plein d'exemples comme ça, des personnes très blanches qui avaient en fait des ancêtres africains, beaucoup de choses comme ça qui ont été mises en évidence et qui ont permis un petit peu de faire le buzz sur ces fameux tests qui donc évidemment sont commercialisés. Alors, en 2018, la Société internationale de généalogie génétique, elle a recensé 39 entreprises dans le monde qui fournissent des tests génétiques d'ancestralité directement aux consommateurs. Si la grande majorité d'entre elles sont localisées sur le territoire nord-américain, un nombre croissant d'entreprises fleurissent en Europe et au Moyen-Orient, et certaines commencent même à s'implanter en Asie, en Amérique du Sud. La vente de ces tests, elle a commencé à décoller en 2013 en fait, hein, et elle connaît donc une croissance exponentielle depuis 2016, c'est pour ça qu'on en parle plus ces derniers temps. En avril 2018, plus de 15 millions de personnes avaient déjà envoyé leurs échantillons d'ADN pour analyse, soit 15 fois plus qu'en 2013. Donc on commence en fait à rassembler énormément de données sur les personnes, et la généalogiste américaine Lee Larkin, auteure d'un blog nommé The DNA Geek, justement elle a rassemblé les données de 5 entreprises phares du secteur. Alors je donne les noms parce qu'elles sont assez connues: Ancestry DNA, 23andMe que j'ai cité précédemment, MyHeritage, GED Match et Family Tree DNA. Alors, stimulée par une publicité omniprésente, l'engouement ne faiblit pas. La vente de ces tests poursuit donc sa croissance. Et donc, on estime que 100 millions de personnes pourraient y faire appel d'ici à 2021, voire plus avec la prolifération des spots publicitaires et la diminution en parallèle des coûts de génotypage de l'ADN. Donc là, on imagine bien ce marché extrêmement lucratif avec donc aux États-Unis, en tout cas, c'est en libre accès. Il n'y a aucun souci pour faire ce type de test dit récréatif, et ça pose de nombreuses questions. Jean-Noël, je pense que là tu vois déjà des questionnements émerger, ne serait-ce que déjà l'incroyable base de données que ces entreprises sont en train de constituer sur nous. Alors en France, cette génomique dite récréationnelle, elle est interdite. Avoir recours à ces tests en libre accès sur Internet, c'est passible quand même de 3 750 € d'amende.
D'accord.
Notre pays semble pourtant ne pas échapper totalement à cet engouement pour la généalogie génétique, puisque le journaliste et généalogiste Guillaume Demorand souligne que chaque année, 100 000 Français contourneraient la loi en achetant ces tests aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Suisse. Alors, ce journaliste, justement, il a lancé en 2017 une pétition pour réclamer la législation des tests ADN généalogiques en France. Alors, bien sûr, certaines entreprises, elles n'envoient pas leur kit en France, mais les sites internet de généalogie génétique regorgent d'astuces pour contourner en fait cet embargo de livraison, et donc il y a plein de façons finalement auprès d'un revendeur sur le site, donc Amazon, de pouvoir s'en faire livrer en France. Il y a eu un reportage en fait très très intéressant sur donc Envoyé spécial récemment. C'est pour ça aussi que j'ai eu envie de m'attarder sur ce sujet-là. Les différents journalistes en fait, qui interviennent dans le reportage, justement, se font livrer des tests sans aucun problème.
Bien sûr, mais ça, j'ai aucun doute là-dessus.
Et justement, ils font la propre analyse, et c'est très intéressant d'avoir donc justement l'explication des résultats, de voir au travers de leur expérience, finalement, comment ça se passe. Mais évidemment, ce succès grandissant, justement, il soulève de nombreuses interrogations qui sont également évoquées dans ce reportage-là. Par quelle magie, finalement, ces tests nous révèlent des informations sur nos proches et nos lointains ancêtres? L'analyse des informations contenues dans notre ADN permet-elle réellement d'inférer de façon précise et fiable nos origines ethniques et géographiques? Existe-t-il vraiment un marqueur génétique de l'ethnie? Est-ce que vraiment l'ADN peut être utilisé pour définir notre identité? Bref, en fait, dans quelle mesure on peut faire confiance à ces tests? Et puis aussi, on met un peu le doigt sur les dérives possibles. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire une synthèse, parce qu'il y a énormément de choses détaillées dans ce dossier, donc sur le site Pour la Science, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc en tout cas, suite à ces différents reportages, et puis également au fur et à mesure de l'engouement de ces tests, il y a forcément une contestation qui a commencé un petit peu à s'élever, notamment venant des médecins, des généticiens et des responsables d'agences chargées de la régulation des dispositifs de santé. Et notamment, en fait, les principales inquiétudes, outre le fait qu'on peut débattre sur la validité, j'en parlerai un peu plus tard, des origines ethniques qui sont identifiés, il y a toute une inquiétude sur en fait le volet santé de ces tests. Car en fait, avec ces tests-là, on peut aussi prédire, par exemple, en tout cas, ils se permettent, eux, ces tests, de vous dire si peut-être vous avez une chance d'être touché par Alzheimer ou par d'autres maladies graves.
Ok, bien sûr.
Donc c'est quand même très, très inquiétant. Alors pour expliquer un petit peu ça, Il faut revenir au début des années 2000, où les chercheurs en fait, qui s'intéressent aux mécanismes biologiques conduisant certaines personnes à développer une maladie complexe, comme le diabète, l'infarctus du myocarde, eh bien, ils utilisent une nouvelle approche nommée donc GWAS, GWAS, je ne sais pas si on prononce comme ça, c'est la française, mais ça veut dire en anglais Genome-Wide Association Study, pour justement l'étude d'association sur le génome entier. Et alors, il s'agit de, en pratique de constituer de grands échantillons de patients atteints de la même maladie et d'aussi grands échantillons d'individus sains. Dans les deux groupes, tous les individus sont soumis à une analyse de leur ADN. Plusieurs milliers de marqueurs génétiques SNP sont ainsi caractérisés sur un gros échantillon de patients et un gros échantillon de témoins. En fait, du coup, cette approche, elle consiste à calculer pour chacun de ces marqueurs la proportion de patients qui présentent un des allèles possibles et à calculer cette même proportion sur les témoins et enfin comparer ces deux proportions. Donc, plus ces deux proportions sont différentes et plus le marqueur considéré distingue l'échantillon des patients de celui des témoins. Donc, en gros, si je résume, on arrive à localiser des régions d'intérêt sur les gènes, à les identifier et on va un petit peu cataloguer celles qui appartiennent aux personnes donc, qui sont touchées, l'échantillon de personnes touchées par la maladie, vs l'échantillon de témoins, en très, très simplifié. Alors, à partir de là, eh bien, les tests se basent là-dessus pour pouvoir du coup faire une prédiction, mais on a également du coup toute une partie de ces responsables de la santé qui se demandent quelle valeur accorder aux prédictions de risque pour justement les maladies multifactorielles. Oui, parce qu'en général, toutes ces maladies graves, elles sont multifactorielles. Et justement, la Société française de génétique humaine, elle insiste sur un élément fondamental et pourtant qui est souvent éludé en fait avec ce type de test. Dans la plupart des cas, les causes des maladies complexes, elles restent inconnues. Il est clair que les facteurs génétiques ont une importance et interviennent, mais également des facteurs du milieu, donc de l'environnement, auxquels sont ou non exposées les personnes. Et ces facteurs-là, ils interviennent de façon décisive. Donc la société, elle évoque ainsi le cas d'une personne qui serait porteuse de tous les facteurs de risque génétiques associés au diabète de type 2. Mais si cette personne finalement est mince et sans antécédents familiaux, son risque en fait d'être atteint diminue considérablement. Or, en fait, les méthodes statistiques qui sont utilisées pour passer des résultats d'études GWAS au risque individuel de maladie reposent au contraire sur une hypothèse extrêmement simplificatrice. Elle suppose en effet que les maladies complexes sont causées par des facteurs génétiques nombreux, mais sans interaction avec les fameux facteurs du milieu. Donc, les risques proposés ne tiennent pas compte du patrimoine génétique. Enfin, les risques finalement oui proposés ne tiennent donc compte que du patrimoine génétique des individus. Et donc, les Américains parlent ainsi de genomic health risk pour risque génomique de santé. Dans la très grande majorité des cas, les risques calculés de cette façon ne sont que de très mauvaises approximations du risque réel pour un individu donné, qui dépend bien sûr également, on vient de le dire, de son mode de vie et de l'environnement dans lequel il vit et travaille. Alors, ça pose de nombreux soucis, puisque, et c'est du coup les remontées qu'il y a suite à beaucoup de gens qui ont voulu faire ces tests, puisque forcément ils ont voulu savoir, est-ce que je risque d'être touché par une maladie grave ? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui donc ont découvert que oui, notamment pour des maladies type Alzheimer précoce ou des choses comme ça, notamment donc chez des personnes jeunes qui se voyaient prédire que dans quelques années, elles allaient être touchées par Alzheimer. Avant de découvrir en faisant d'autres tests et en allant plus loin, qu'en fait, c'était une mauvaise prédiction ou que finalement, c'était quand même quelque chose de très incertain. On notera également le cas, donc, puisqu'il est assez connu, du fameux test BRCA pour du coup, diagnostiquer certains cancers, notamment le cancer du sein. Là, on parle de ce cancer-là. On se rappelle que préventivement, Angelina Jolie, justement, avait subi une double mastectomie et que ça avait fait grand bruit quand elle l'a fait. Alors évidemment, elle l'a fait on imagine avec l'encadrement médical à la hauteur de ses revenus. Et alors en fait depuis cet épisode-là, il y a de plus en plus de personnes qui après ce type de test et une prédiction donc indiquant un risque très très élevé de cancer du sein et des antécédents familiaux etc. se font opérer. Donc enlever les seins, des fois enlever l'ovaire. Et en fait, on découvre par la suite en faisant de nouveaux tests que finalement la probabilité était en fait extrêmement incertaine. Donc il y a comme ça des cas en fait extrêmement tragiques de personnes en plus beaucoup plus précaires. On connaît les difficultés du système de santé aux États-Unis et qui malheureusement en fait se font quelque part opérer pour rien.
Se font mutiler carrément.
Oui, c'est même le mot, oui, se font mutiler. Donc ça pose vraiment question, maintenant que ces tests se généralisent de plus en plus, de soit des personnes qui d'un coup vont quand même vivre dans des conditions atroces, imaginant une maladie de type, parce que là on ne peut rien faire pour Alzheimer, on ne peut pas se faire opérer préventivement, hein, mais imaginant du coup avoir des souffrances atroces dans les années qui suivent, et des personnes se faisant des fois opérer alors qu'il n'y a pas lieu. Donc ça, je trouve que le débat est très très ouvert sur ce point-là. Sur la question la plus des origines, en fait, donc également dans cet article-là, là je le résume vraiment très très brièvement, ils ont également montré qu'en fait, entre les différentes entreprises, les résultats justement sur les groupes ethniques cités n'étaient pas les mêmes. Notamment, il y a une expérience intéressante qui est citée, qui a été faite sur deux jumelles, deux enfants, donc théoriquement avec exactement le même patrimoine génétique, et où en fait, en fonction en plus des entreprises, on ne trouvait pas la même chose pour chacune d'entre elles.
D'accord.
Donc, assez intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait des origines qui étaient mentionnées, mais qui n'apparaissaient pas pour la sœur, enfin, etc. Donc, encore une fois, peut-être ne pas se fier complètement à la prédiction d'un test d'une entreprise, et peut-être que ce sera quelque chose à creuser pour que la fiabilité quand même puisse augmenter par la suite. Je voulais finir avec quand même une précision par rapport au droit français qui réserve un statut exceptionnel à l'information génétique, puisque, on l'a rappelé, c'est interdit en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les tests ne peuvent être réalisés qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Dans toutes ces situations, la présence d'un professionnel dont les compétences sont reconnues et validées est aujourd'hui obligatoire pour décider du test, le réaliser et l'analyser. Donc après avoir, peut-être une évolution quand même de la législation en France, hein, dans les années prochaines, avec l'engouement de ces tests, puisqu'il y a vraiment une explosion du marché des tests génétiques, notamment via Internet. Et ça ouvre, je trouve, ce type de sujet sur justement les lois de bioéthique et à savoir, nous, finalement, quelles lois de bioéthique nous souhaitons pour l'avenir.
Oui, merci Carole. D'ailleurs, enfin, je voulais juste rebondir sur ta dernière phrase. Quelle loi de bioéthique voulons-nous, nous Français ou nous monde ? Parce que la difficulté, elle est là.
C'est la grosse difficulté.
C'est le cadre législatif qui est totalement différent selon les pays. Et du coup, c'est très permissif dans certains pays. Et en France, c'est tant mieux ou pas, je n'en sais rien, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais en tout cas, plus réglementé ou plus surveillé, on va dire. Mais le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation. Donc, du coup, chacun peut faire ce qu'il veut dans un pays qu'il va choisir. C'est aussi une problématique. Les lois de bioéthique sont, pour l'instant, alors ça n'avance pas trop dans ce domaine. Le terme bioéthique, on en parle très souvent dans cette émission parce que très souvent, je dis que d'un point de vue technique, on va arriver à faire plein de choses. On voit très bien qu'on arrive à faire des expériences sur le cerveau. On est en train de faire des choses techniquement extraordinaire, techniquement, médicalement, des choses extraordinaires. Mais alors, d'un point de vue éthique, on ne se pose pas la question et on est très en retard. Et donc, dans ce que tu viens d'évoquer dans ce dossier complet, je t'en remercie parce que c'était vraiment intéressant.
Il y a là beaucoup aussi, plus d'informations.
Mais
je
n'en doute pas
vraiment,
parce que je vois que tu as, je crois, flingué la forêt de Fontainebleau rien qu'en apprenant l'ensemble de ton article.
C'est ça.
Parce que je vois que tu as fait énormément de coupes. Mais ce que tu évoques de façon rapide, parce que c'est à peu près une dizaine de minutes sur un sujet aussi important, c'est que finalement, d'un point de vue technique, on voit qu'il y a quelques défaillances parce qu'évidemment, il y a sûrement un petit peu de charlatans dans certaines entreprises parce que je trouve extraordinaire cet exemple des deux jumelles où finalement on n'arrive pas au même résultat. C'est quand même assez extraordinaire. Mais bon, balayons ce côté charlatanisme. Il y a derrière... Oui.
En fait, c'est juste pour préciser, ça c'est pareil, c'est très creusé dans l'article, c'est que c'est pas qu'une question de charlatanisme, c'est qu'en fait, il faut voir que les fameux gènes qu'on identifie chez une personne, qui sont séquencés, il faut les retrouver dans des populations type.
Bien sûr.
Et en fait, toute la question, c'est comment sont constituées ces fameuses populations, ces fameuses ethnies. Il y a les différentes entreprises ne les constituent pas de la même façon, avec plus ou moins d'exactitude. Donc en fait, ça ne veut pas dire que tout est faux, mais qu'il faut quand même avoir un esprit très, très, très critique par rapport aux résultats.
Oui, c'est l'interprétation qui est différente selon les mêmes résultats, en fait.
Oui.
Donc oui, mais à la rigueur, admettons qu'on va arriver peut-être après à essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus... comment dire, efficace ou bien défini. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça, en fait ? La question, elle est là. Et quel est l'intérêt de connaître son avenir d'un point de vue médical. C'est effrayant. Enfin, moi, je ne veux pas savoir.
C'est effrayant, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont envie de savoir.
Alors, je peux comprendre qu'il y en ait plein qui ont envie de savoir, mais on voit très bien les dérives que l'on peut avoir. C'est ça, la difficulté. Parce que tu as évoqué voilà, certains cas, et il y en a des milliers d'autres, où on peut avoir un facteur déterminant pour telle ou telle maladie. Ça ne veut pas dire qu'elle va se déclarer, parce qu'il y a tout un ensemble, tout un environnement qui intervient également, qu'on ne peut pas prédire. Mais les gens veulent prédire leur avenir et ils veulent ensuite le contrôler.
Exactement.
Et mais on n'y arrivera pas, mes enfants.
Non.
Pas encore.
Non, et en fait, il y avait un exemple. Ça, c'était donc, dans le reportage d'Envoyé spécial que j'ai trouvé effrayant et typique des États-Unis. Donc, il y avait ces gens à qui on prédisait des maladies. Et puis, il y avait aussi en fait, des entreprises qui ont développé un aspect, on parle de contrôle, d'encadrement de sa vie, etc., qui, en fait, donnaient carrément des conseils, notamment sur l'alimentation, justement, parce qu'on, qui était la meilleure pour les personnes. Et en fait, on voyait une famille américaine, j'ai envie de dire classe moyenne aisée, donc qui avait le temps finalement de s'interroger dans le détail sur ces problématiques et surtout le temps pour... Alors la femme travaillait dans une des entreprises, donc ça aidait. Et qui, donc elle avait des tests comme ça, ciblés et personnalisés en fait pour l'ensemble des membres de sa famille, notamment les enfants. Et en fait, elle adaptait l'alimentation. Donc à un niveau, ça demandait une logistique et une réflexion qui était impressionnante pour chacun des membres de la famille. Pour qu'en fait, alors c'était pas anodin, c'était pour maximiser le potentiel de santé de chacun, et notamment pour les enfants avec perspective de meilleurs résultats derrière, meilleure santé, meilleur futur. Enfin, c'est quand même ça qu'on fait miroiter aux gens aussi à un moment. Donc moi j'avais trouvé ça quand même assez angoissant d'en être à ce niveau de contrôle, d'après les tests génétiques, être en train de dire qu'à tel repas il fallait, parce que c'est dans le détail, hein, telle quantité de protéines avec telle quantité de sucre lent, mais avec aussi tel fruit, et plus pour tel enfant, mais pas pour tel autre, parce qu'en fait, ça allait très très loin.
Derrière, ça pose aussi une question un peu sous-jacente qui est l'accès aux soins, c'est-à-dire que l'accès est différent selon les revenus, par
exemple.
Bien
évidemment.
Et du coup, certains auront droit et pas d'autres. En fait, on est en train de traduire ce que l'on voit des fois dans certains films où certains, selon leur niveau, leur situation financière, peuvent contrôler certaines choses et d'autres non. Et là, ça devient une inégalité qui va se creuser encore plus. Qui n'existait pas avant, en fait. Et on va en rajouter une, parce qu'on n'a pas assez d'inégalité sur le monde. Donc on se dit, tiens, on va rajouter une. C'est effroyable. Cet avenir est effroyable. Est-ce qu'on le connaîtra véritablement? On n'en sait rien, parce qu'on ne sait pas trop à quelle échelle, là. Objectivement, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va se déployer très rapidement? Je n'en sais rien. Je ne l'espère pas d'un point de vue personnel.
On suggère que oui,
mais
après...
On a un peu l'impression que ça va très très vite. Oui. Et que les cadres législatifs, mais alors, à milieu de tout cela, parce qu'on ne se pose absolument pas ces questions. C'est assez... Voilà. C'était un dossier complet qui perturbe notre émission dans le sens où on a encore le temps d'écouter un petit titre et puis on aura encore le temps peut-être d'évoquer quelques articles ensuite. Mais en tout cas, merci Carole pour ce travail intéressant.
C'était avec grand plaisir.
Je l'avais bien noté. Allez, on va écouter. Alors, tu voulais à tout prix découvrir ce groupe dont le nom
dont
évoquait
le nom
quelque chose.
Me ravit. Bison Bisou.
Eh bien écoute, on va découvrir Bison Bisou sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Graphite, également à l'écoute sur graphite.net.
Et c'était Bison Bisou sur l'antenne de Graphite. Le titre s'appelle Malaise. C'est peut-être un petit peu le résumé de ce que l'on avait tout à l'heure.
En tout cas, moi j'adore ce groupe.
Je ne dis pas que la musique nous a mis à malaise. C'est le sujet que tu as évoqué juste avant.
On est raccord en termes de thématique.
Un certain malaise. Carole, de quoi vas-tu nous parler désormais ?
Pour être sur une thématique un peu plus légère, si j'ose dire, et une thématique en fait que j'adore, hein, puisqu'on va parler de paléontologie, eh bien, deux petits fossiles d'une nouvelle espèce apparentée au tyrannosaure nous éclairent sur l'évolution de cette famille emblématique. Alors, c'est un article paru dans Science et Avenir début mai, puisqu'on apprend que les tyrannosaures n'ont pas toujours été les animaux gigantesques et effrayants incarnés par leurs plus célèbres représentants. J'ai nommé le Tyrannosaurus Rex, l'effrayant prédateur starisé dans le film Jurassic Park et ses suites. Alors, cette énorme bête, elle pouvait atteindre 12 mètres de long et dépasser les 6 tonnes. Elle est arrivée en fait sur le tard dans l'évolution des tyrannosaures. Il y a seulement 70 millions d'années environ, alors qu'en fait la lignée remonte au Jurassique, c'est-à-dire il y a moins 170 millions d'années. Le tyrannosaure des origines, eh bien, on découvre qu'il était d'une taille qui n'excédait pas celle d'un homme. Ses proportions ont longtemps été conservées jusqu'à l'arrivée du premier gros représentant dont on retrouve la trace il y a seulement 80 millions d'années. Et à ce moment-là, on l'appelait le Litronax avec ses 8 mètres de long et ses 2,5 tonnes. Avant lui, des tyrannosaures de taille intermédiaire ont pu exister. En tout cas, c'est ce que veulent croire les scientifiques, mais ils n'arrivaient pas vraiment à les dénicher, ces représentants. Et c'est enfin le cas avec donc le Susquehannus azelae, une nouvelle espèce identifiée dont deux représentants ont été découverts dans le bassin de Zuni au Nouveau-Mexique aux États-Unis. Alors ces spécimens, ils sont représentés par deux squelettes fossiles de juvéniles datés d'environ 92 millions d'années. J'aime beaucoup juvéniles, mais il y a 92 millions d'années, et ils ont été en fait particulièrement bien conservés avec deux crânes d'une trentaine de centimètres de long. Bien qu'ils soient jeunes, les paléontologues estiment que si ces deux-là avaient atteint l'âge adulte, leurs dimensions seraient très nettement inférieures à celles de leurs cousins de la fin du Crétacé comme le T-Rex. Ces deux fossiles qui sont décrits dans un article publié dans la revue Nature Ecology and Evolution représentent selon les auteurs une forme intermédiaire entre les premiers tyrannosauroïdes qui étaient encore plus petits et bien sûr leurs immenses descendants. Alors même si le Susquehannus n'était pas très gros, il devait tout de même être un dangereux prédateur qu'on n'avait pas envie de croiser puisque ses membres inférieurs étaient particulièrement bien affûtés et autorisaient des courses rapides et sa mâchoire avait une force particulièrement élevée. Donc on pouvait quand même, si on le croisait à cette époque, à mon avis finir comme son repas. Voilà donc pour ces nouvelles sur la famille du Tyrannosaurus Rex.
Merci Carole. Et c'était quoi alors ce nom là, le Susquehannus?
Il faut le retenir. Non, le Susquehannus azelae.
Le Susquehannus azelae. Eh ben écoute, on essaiera de placer ça dans une conversation à table avec des amis ou avec des clients, on va savoir. C'est ton défi de cette semaine.
Dans les dîners en ville. Oui, tout à fait. Avec grand plaisir. Je pense que je vais y arriver.
Oh, je n'ai aucun doute là-dessus. C'était Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. On se retrouve samedi prochain, amis auditeurs. On te retrouve samedi prochain, amie Carole.
Tout à fait, avec grand plaisir. Je vais encore rester une semaine de plus. Il fait beau, il fait chaud dans le studio de Graphite.
Exactement, et c'est tant mieux. On se retrouve donc samedi prochain. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite que vous retrouvez sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Et vous êtes de plus en plus nombreux et c'est très bien et c'est tant mieux. Vous avez la possibilité également de récupérer les podcasts de toutes les émissions sur l'antenne, sur le site internet de graphite.net. N'hésitez pas et puis vous suivez l'actualité de Graphite sur la page Facebook et sur le compte Twitter, bien sûr. On se retrouve samedi prochain pour continuer de feuilleter le grand livre du monde de la science et de la technologie. Merci Carole, à samedi.
À samedi.